Bonjour, vous êtes bien à la Ferme de la Chapelle à Lancy pour ce podcast dédié à l'art et au français, car le français, c'est tout un art. Avec moi-même, Anina Meyer, médiatrice culturelle à la ville de Lancy, et
Erdal Oskan, professeur de français langue étrangère au sein du collectif de profs indépendants 1202 sur Genève.
Spécimen de Jérôme Stettler, à la Ferme de la Chapelle, du 10 octobre au 8 novembre 2020.
Sur ce podcast, nous avons décidé de faire un exercice de compréhension orale pour niveau B2-C1, à ça, en accompagnement et en guise d'exercice de lecture, vous trouverez à disposition un mémo que vous pouvez lire tout en écoutant le podcast. Vous y trouverez certains mots-clés traduits en anglais et les images des œuvres commentées. Bonne écoute.
L'exposition de Jérôme Stettler prend place dans la première salle de la Ferme de la Chapelle, dans la deuxième avec des films d'animation, et au premier étage, on y découvre les dessins qui constituent son nouveau livre « Topia » qu'il édite ce mois d'octobre aux éditions Art et Fiction et qui s'insère ainsi dans les festivités des 20 ans de cette maison d'édition. Nous sommes là dans la première salle de la Ferme de la Chapelle. Je rentre, silence, ordre. Un accrochage classique. Sur ma gauche, deux rangées de dessins, 20 dessins au total. En face de moi, un dessin. Et sur ma droite, deux dessins de plus grand format, encadrés sous vitre. Un univers noir et blanc m'accueille ici. J'avance et je m'approche des deux rangées sur ma gauche. Un tapir, un poisson, deux poissons, des arbres, une forêt, un mur sec dans le Jura, un trou noir, un médaillon en soleil peut-être, et puis là, un masque. Chaque dessin ressemble à une gravure qui fait apparaître une forme grâce au sillon creusé, tantôt à la verticale, tantôt à l'horizontale. Le fond est donc rayé, noir et blanc. Ces fines lignes blanches sur le fond noir donnent une sensation de velouté, très vibrant, une trame tissée, ondulation douce qui me rappelle un rideau de soie. Le sujet, lui, il peut flotter au centre, isolé, décontextualisé, comme ce hydrosol. Le sujet peut aussi m'en rappeler un livre de botanique, une trouvaille archéologique qu'on mettrait en scène, ou alors une reconstitution historique, par exemple cet abri-là. Le sujet, parfois, est aussi un portrait d'animal. Cette tête-là, par exemple, c'est un panda, c'est un ours, c'est un tapir, peut-être, et cette gazelle avec cette drôle de bouche, quelle gueule. Mi-sculpture, mi-animal familier, mi-animal étrange, j'ai envie de savoir, existe-t-il vraiment ? Saïga, son titre. J'ai envie d'aller voir sur internet qu'est-ce que c'est. Le sujet, parfois est aussi une vue sur un paysage de loin, comme ce muret justement qui longe un flanc de colline. Je m'approche et je vois, ah non, il n'est pas fait en pierre sèche. Un paysage aussi de près, des troncs d'arbres qui s'élancent vers le haut avec un vestige énigmatique, d'autres troncs très fins qui prennent appui sur un seul mot. Ils montent vers le ciel et laissent entreapercevoir un être qui fuit, un tas de poils, on dirait. La forêt, pensait Kronauer. D'accord pour une brève balade, à condition de rester en lisière. Mais une fois qu'on s'est enfoncé à l'intérieur, il n'y a plus ni nord-est, ni sud-ouest. Les directions n'existent plus. On doit faire avec un monde de loups, d'ours et de champignons. Et on ne peut plus en sortir même quand on marche sans dévier pendant des centaines de kilomètres. Déjà, il se représentait les premières rangées d'arbres. Puis, très vite, il vit les épaisseurs ténébreuses, les sapins morts, tombés de leur belle mort depuis 30 ou 40 ans, noirs de mousse mais renaclant toujours à pourrir. Ses parents s'étaient évadés des camps et s'étaient perdus là-dedans, dans la taïga, et ils y avaient disparu. Il ne pouvait évoquer la forêt sans y associer le tableau tragique de cet homme et de cette femme qu'il n'avait jamais connu. Depuis qu'il était en âge de penser à eux, il les imaginait sous la forme d'un couple d'errants, à jamais, ni vivant ni mort, perdu. Commets pas la même erreur qu'eux, pensa-t-il encore. La taïga, ça peut pas être un refuge, une alternative à la mort ou au camp. C'est des immensités où l'humain a rien à faire. Il y a que de l'ombre et des mauvaises rencontres. À moins d'être une bête, on peut pas vivre là-dedans. C'était un extrait d'Antoine Volodine, Terminus Radieux. Il y a aussi un dessin recouvert à deux tiers par des lignes toutes fines, verticales, qui s'arrêtent net en bas de la feuille, sur un paysage minéral. On dirait un grand plan sur des cristaux de montagne, peut-être, ou une mer de pics rocheux qui laisse apparaître en son milieu un trou noir, un passage vers l'inconnu. Jérôme Stettler nous invite à voyager dans cet univers noir et blanc, dans ces paysages, avec ces animaux d'eau et de terre, avec ces quelques artefacts résidus d'une activité, était-elle humaine? Des résidus aussi, peut-être d'un passage humain, comme cette planche de bois cassée sur laquelle sont encore cloués deux plus petits morceaux, également en bois. Où est passé l'être humain sur cette terre? À quoi peut bien servir cette tête de tapir fixée sur une branche et cet abri? De quoi ou de qui veut-il me protéger? Le contexte actuel dans lequel nous vivons, les lectures, les films ou musiques que nous écoutons, regardons, lisons, peuvent évidemment nous fournir une multitude de réponses. Moi, je suis là. Mon regard glisse sur ces dessins, leur surface luisante, recouverte de matière grasse, de sillons. Je rentre dans les strates, je remonte dans le temps, je m'avance vers un futur. Thank you.
spécimen, je trouve que ça disait bien pour moi à la fois la multiplicité des possibles mutations du vivant, et puis aussi il y avait cet aspect scientifique ou proto-scientifique par rapport à des naturalistes des temps passés, ou bon, surtout des temps passés, parce que voilà, ou même peut-être actuels par rapport aux spécimens ou aux formes de vie qu'on découvre encore aujourd'hui, quoi. J'ai travaillé conjointement le projet du livre, un peu effectivement comme un voyage dans une sorte de topographie imaginaire, avec un certain nombre de dessins qui ont été faits dans ce voyage imaginaire.
Toi, tu voyages aussi beaucoup, et beaucoup dans des pays exotiques, ou c'est plutôt des formes de voyage par source d'inspiration?
Alors, j'ai pas mal voyagé quand. Il y a pas mal d'années, quoi. Après, justement, c'est, je pense, la question de l'exotisme, elle est aussi un peu dans ce travail, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être, l'exotisme? Mais je voyage moins, en fait, maintenant. Donc là, c'est plutôt c'est un peu un voyage dans ma chambre. Enfin, c'est un voyage mental. Puis c'est aussi un voyage à travers les images. Donc je regarde pas mal d'images. Je crois que c'est essentiellement maintenant ma nourriture. Et puis il y a pas mal de textes aussi qui viennent nourrir ce travail. Donc je dirais que la notion du voyage est plutôt là, au niveau de l'imaginaire. Au début de ce projet, il y avait les planches de cette naturaliste du 17e, Anna Sibylla Merian, qui, elle, est réellement partie au Suriname en bateau. Enfin, c'était des voyages, alors, pour le coup, vraiment formidables à l'époque, pour dessiner justement les mutations, enfin disons les insectes qu'elle a trouvés là-bas en Amérique centrale. Donc il y avait vraiment un ailleurs, un exotisme. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les dessins finalement qu'elle a ramenés, ils ont été traduits à leur tour dans des planches gravées, avec une très très grande part aussi d'imaginaire à partir de ce qu'elle a fait, même si les observations étaient quand même déjà scientifiques, quoi. Mais je dirais que c'est ce décalage entre aussi l'observation dans un lieu donné et puis cet ailleurs qui naît du dessin et de la transformation par le dessin, qui pour moi parle aussi de l'exotisme, quoi. Alors, au départ de ces dessins gravés, soustractifs, j'ai découvert il y a quelques années l'espace imaginaire, ou le projet littéraire d'Antoine Volodin, qui est un écrivain, malgré que le nom le laisse m'entendre, mais c'est un écrivain qui vit en France. Bon, j'ai découvert d'abord un premier roman qui est Terminus Radieux, et qui est une sorte d'espace de fiction complètement extraordinaire. Enfin, moi, j'ai trouvé assez inclassable, parce qu'on est à la fois entre une dystopie, mais en même temps, on revient en fait dans tout le passé du XXe siècle, et plus précisément du communisme, en fait. Enfin, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que il construit en fait son roman dans un temps complètement oblique, quoi, où on est à la fois dans des choses qui ramènent dans le passé, mais on est quand même dans une sorte de futur. Mais on s'aperçoit aussi que les êtres qui sont là sont pas forcément vivants ou pas forcément morts, ou que pour faire certaines choses, tout à coup, ça va leur prendre 350 ans. On les retrouve 1500 ans plus tard, mais dans un claquement d'ailes de corbeau. Enfin, c'est très étonnant, quoi, comme montage temporel. Et puis, bon, il y a vraiment une force de l'imaginaire. Je crois qu'effectivement, ça m'a vraiment accompagné, quoi, cette lecture un temps.
Et comment tu l'as fait concrètement? Tu pars de plein d'esquisses ou tu es parti de graver d'abord?
Non, au début, il y a pas mal de dessins, voilà, au crayon, à l'encre. Il y a plusieurs états du dessin dans ma manière d'aborder le dessin. Le dessin, comme ça, un peu à la prima, enfin, qui sort comme ça, qui plutôt dessin de notes ou dessin d'idées. Et puis à partir de ces dessins-là, j'en choisis certains que je vais travailler dans ce mode-là qui est beaucoup plus travaillé. Et puis ces dessins-là, je les retravaille en fait. Souvent, j'en fais deux, trois, quatre versions, même parfois plus. Parfois aussi à la table lumineuse, quoi. Je les refais jusqu'au moment où je trouve vraiment le motif qui me paraît avoir sa stabilité. Et puis c'est à partir de ce dessin-là que je grave en fait ces dessins plus grands que souvent ceux qui existent au préalable sur les feuilles de recherche.
Donc là, c'est aussi une petite archéologie de graver, de traverser des profondeurs, des strates. Cette archéologie, est-ce que tu as aussi vu des fouilles ou il y a eu un moment où ça t'a intéressé l'archéologie en général, dans ton parcours peut-être?
Alors, moi, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, pas forcément dans un parcours professionnel. J'ai fait de la restauration de fresques, mais voilà, il y a quelque chose qui peut avoir justement avec un peu l'archéologie, mais en tout cas, on est avec des vestiges du passé. Mais là, c'est vrai que la question des strates temporelles, c'est une chose qui est vraiment. C'est un intérêt un peu permanent. Les échelles de temps, les couches temporelles, comme ça. Enfin, j'ai fait pas mal de gravures, notamment de gravures lino, qui est aussi un travail soustractif, quoi, où on enlève de la matière. Et puis, c'est vrai qu'en le faisant, et en travaillant ces dessins qui sont comme de la carte à gratter, j'ai toujours eu à l'idée que je désenfouissais, enfin, je faisais apparaître l'image comme. On pourrait effectivement, avec un petit pinceau, enlever de la terre autour en fait d'un objet. Donc il y avait vraiment ça qui était présent, comme ça un travail assez méticuleux pour faire apparaître l'image. Enfin, je me disais, oui, c'est drôle parce que je parle de choses qui sont dans des temporalités incertaines. Certaines, elles viennent d'un passé très très ancien, d'autres peut-être dans une projection. Dans un futur assez incertain, mais la manière de dégager ces images, c'est un petit peu le geste d'un archéologue qui essaierait d'enlever de la terre autour d'un objet, quoi. Donc oui, il y a un lien absolument. Ouais.
Merci à Jérôme pour cet entretien en plein montage de l'exposition et merci également à Sunra, le musicien, d'avoir enregistré son album Supersonic Jazz Album en 1956, duquel on vous a fait écouter un mini-extrait au tout début de ce podcast. Tout comme aussi un grand merci au musicien Moondog qui nous a accompagnés avec son Marimba Mondo 2 tiré du recueil The German Years 1977 à 99. Enfin, merci aussi à Alexandra Bellon pour avoir pu picorer dans sa création sonore qui envoûte les deux films d'animation de Jérôme Stettler, ici à la ferme de la Chapelle.
Notre prochaine rencontre se déroulera le 22 novembre à la ferme de la Chapelle, toujours à partir de 10h30 le dimanche matin. Il s'agira de l'exposition de Guy Auberçon intitulée « Demeurer dans les arbres ». À bientôt !